Bonjour, ici Radio Grand Ciel dans notre studio de Châteaudun. À la technique Jean-Marie, au micro Henri. Nous accueillons aujourd'hui pour notre émission ensemble Bernadette Bataille. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
Bernadette est une vieille connaissance puisque nous avons longtemps été au travail au centre hospitalier de Châteaudun. Bernadette était à la maternité au premier étage en tant que sage-femme et j'étais tout là-haut au quatrième étage, on pourrait dire presque près du paradis, pour la médecine dans l'orientation des maladies digestives à l'époque. Et bien sûr, comme tout évolue, y compris dans notre cher hôpital. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour pour notre association d'ensemble, c'est l'association Accueil et Partage dont Bernadette va nous parler. C'est une association qui accueille des enfants. Alors Bernadette, racontez-nous un peu cette association, ce qu'elle est et puis comment est-ce que tu as été en contact avec elle et le cheminement de cette association en Pays du Noir ? Parce que je pense qu'aussi c'est une grande association, peut-être internationale, ou du moins nationale, ou du moins régionale. Nous t'écoutons, Bernadette.
Alors voilà, c'est une bonjour à tous. C'est une association Accueil et Partage qui a eu un agrément d'autorisation en 1990 avec des membres d'une autre association appelée Accueil et Vie qui travaillait dans l'adoption et des membres d'Enfance et Partage qui est bien connu. Moi, je suis arrivée dans l'association Accueil et Vie et Enfance et Partage, puisque souvent nous faisions les deux, en 1980-81, avec l'adoption de nos deux filles qui arrivaient d'Haïti. Nous nous sommes impliqués dans l'association. Et voilà, depuis tout ce temps-là, nous sommes, mon mari et moi, restés à l'association. Voilà.
Alors, 1980, quel âge avait-elle lorsque vous les avez accueillies ?
Alors, c'était deux sœurs, 9 ans la plus grande et 5 ans la plus jeune. Voilà. Et puis, auparavant, il y avait eu un petit garçon qui venait de Corée et nous avons deux enfants, on va dire, biologiques, quoi, conçus maison.
Ah oui, et le petit enfant de Corée, il a quel âge maintenant ?
Ah ben attendez, il a 40, 40 et quelques. J'ai des enfants de 73, 74, 75, 76, 78, voilà. Alors tous les ans, ça change.
Alors vous avez 5 enfants.
Oui.
Alors l'aîné à quel âge maintenant ?
Alors, l'aîné, alors 73, ça fait 48, c'est ça ?
Oui. Et le dernier ou la dernière ?
Eh bien, elle doit avoir 43. Et elle va avoir 44.
Donc, vous avez, en gros, 5 enfants qui se suivent à un an d'intervalle, en gros.
Exactement. Et c'était très bien.
Eh bien, en effet, 48, mais alors ça vous fait combien de petits-enfants maintenant ?
On en a 14.
Bon, c'est vrai que vous avez une maison sympathique assez grande du côté de Crépinville, là.
Exact.
Pour, avec Vincent, votre cher époux, oui. Alors, donc, ces petites haïtiennes, vous êtes allées les chercher là-bas, alors ?
Non, 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 il y a une religieuse qui est venue... amener plusieurs enfants et les filles sont arrivées comme ça. Voilà.
Oui. Et elles étaient orphelines ou...
Alors, leur maman était tuberculeuse, gravement tuberculeuse. Et ce sont les religieuses en accord. Il y avait beaucoup de femmes du sanatorium. Elles étaient hospitalisées au sanatorium. La plupart des femmes décédaient. Et le sana était tenu par des religieuses. Et la maman, sachant qu'elle allait mourir, a préféré, plutôt que les filles soient, on va dire, à la rue, parce qu'il y avait un père qui n'était plus là, qui était même tonton Macoute, comme on disait à l'époque, hein, c'était pas un tendre, a préféré qu'elles aillent dans une famille, voilà, qu'elles trouvent une famille.
Et vos filles ont conservé quelques relations là-bas ?
Pas vraiment. Moi, j'avais des relations avec la mère de naissance des filles, par lettre,
oui,
qui arrivait régulièrement. Mais puis par la suite, moi, je suis allée en Haïti et j'ai rencontré la mère de mes filles. Voilà.
Ah oui, finalement, elle a pu survivre alors.
Alors, elle a survécu parce qu'on a fait passer des médicaments contre la tuberculose qu'elle ne prenait pas régulièrement. Bref, à l'époque, le pneumo disait que c'était pas sérieux parce qu'elle développait une tuberculose résistante parce que pas assez de médicaments. Non, elle est décédée, mais d'autre chose, voilà, d'un cancer généralisé, mais pas de tuberculose, voilà. Mais moi, je l'ai rencontrée plusieurs fois. Et elle, si vous voulez, cette adoption, comme les adoptions que l'on a faites avec mon mari. Quand on s'est marié, on voulait une grande famille, enfin avec plusieurs enfants. On aurait pu avoir d'autres enfants, hein, le problème n'était pas là. C'est que pour nous, la famille est importante. Le cadre familial est important. Plutôt que de s'élever dans une structure, hein, un orphelinat, il est important pour des enfants d'avoir une famille, un père, une mère. Donc c'est dans cet esprit-là que l'on a donc adopté nos enfants. Et pour nous, l'adoption, quand il y a des parents qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus, c'est passage de témoin, voilà. On ne peut plus assumer le rôle de parentalité, alors on passe le témoin à d'autres. Ou à cause de la maladie, ou à cause de la pauvreté, ou parce qu'on ne veut pas de cet enfant, ou enfin, quelles que soient les raisons, cet enfant, on n'en veut plus, on arrête d'être parent et on passe le témoin de parentalité à quelqu'un d'autre. Je trouve ça très, très courageux, très, très fort.
Oui, c'est un relais, là, vous passez le flambeau.
C'est un relais.
Le flambeau de la vie.
Et ces enfants sont complètement nos enfants, hein, on ne peut pas dire, voilà. Ce sont nos enfants, comme si on les avait faits, sauf qu'on ne les a pas faits.
Oui, et que ces jeunes filles, finalement, ont-elles eu un contact avec leur mère ou...
Une seule. Oui. Une seule, à 23 ans, qui est éducatrice spécialisée, la plus jeune, oui. Et qui a rencontré sa mère, qui a passé, je l'ai laissé passer une journée avec sa mère. Et vous voyez, quand on est rentré dans l'avion, elle m'a dit, « Maman, c'est le pays où je suis née. » Ce sont mes racines, mais ça n'est pas ma famille, ça n'est pas ma culture. Et c'est évident parce que mon mari et moi, on n'a pas pu leur donner la culture qu'il y a en Haïti. Elles sont de culture française. Et la famille, hein, c'est les frères et sœurs, les cousins, les cousines, les oncles et tantes. On ne pouvait pas donner autre chose, quoi. Si bien qu'elle n'est jamais retournée.
Oui.
Voilà, c'était terminé.
Alors, comment est-ce que... ces deux filles sont grandes maintenant. Hein. Et donc, leur pays, c'est la France.
Ah hein. Oui, complètement. Oui. Hein. Elles n'ont jamais... Enfin, Marie, la plus grande, n'a jamais voulu retourner en Haïti ou avoir des contacts avec sa mère de naissance. Oui. Pauline, pas de contact non plus, mais donc elle l'a rencontrée. Mais bon, ça ne veut pas dire que pour ces enfants-là, enfin, hein, enfants, lorsqu'elles sont arrivées, c'était simple. C'est compliqué. Hein.
Elles étaient déjà un peu grandes, 5 ans et 9 ans, lorsqu'elles sont arrivées. Oui.
Mais même lorsqu'ils sont petits, enfin, c'est une ambiance, c'est des sons, c'est des odeurs, c'est des contacts différents. Et puis, on les balance. Non, c'est compliqué pour des enfants qui sont adoptés. Et du coup, ce n'est pas simple tous les jours.
Voilà. Quand même, à Haïti, elle connaissait la langue française.
Alors, elle parlait créole, on parle créole en Haïti. Oui. Le français est devenu langue officielle depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Or, c'est vrai que tout l'administratif en Haïti est fait donc en langue française. Hein. C'est le code de Napoléon, d'ailleurs, qui est là. Les journaux sont en français. Oui. Le créole est arrivé tard. À l'école, ils apprennent le créole et le français. Mais dans la rue... La langue vernaculaire, usuelle, c'est le créole. Hein.
Donc à l'école, quand même, à Chatodin, elles ont pu démarrer sans trop de difficultés.
Oui, oui, oui. Et puis elles se sont retrouvées dans une petite école. Et puis les enseignants sont très, très compréhensifs, sont très, très pédagogues. Et non, ça s'est très bien passé. Oui, oui.
Une petite pause musicale. Prenons notre entretien avec Bernadette Bataille au sujet d'une association qu'il connaît bien, qui s'appelle Accueil et Partage, et qui a pour mission d'accueillir des enfants dont les parents soit sont décédés, soit ne peuvent plus les prendre en charge. Oui.
Alors, je voudrais dire aussi que, surtout, que Accueil et Partage... Effectivement, a un volet qui fait de l'adoption, mais ce n'est pas le volet le plus important d'Accueil et Partage. Accueil et Partage, c'est une association de solidarité internationale qui intervient dans plusieurs pays, mais dont le but est d'aider sur place et de faire en sorte que les familles puissent élever leurs enfants et les mettre à l'école et qu'ils restent dans leur pays. Et c'est seulement pour quelques enfants pour lesquels il n'y a pas d'autre solution dans leur pays que l'association, que l'on a été contacté au tout début par une religieuse dans les années 80 pour des enfants qui n'avaient pas d'avenir dans leur pays. Et c'est très bien, comment dire, on ne fait pas n'importe quoi donc en adoption. En adoption, notre organisme de tutelle, c'est le ministère des Affaires étrangères, avec un bureau qui s'appelle la mission de l'adoption internationale. Et c'est un volet, effectivement, d'accueil et partage, mais ce n'est pas le travail principal d'accueil et partage. Accueil et partage intervient en Haïti, en Éthiopie, à Madagascar, avec des parrainages de familles, d'enfants surtout, et avec la construction et l'entretien d'écoles, de cantines scolaires, de silos à grains. Enfin bon, je reviendrai là-dessus, mais c'est le volet principal, l'aide sur place dans les pays pour que les familles vivent mieux. Voilà. Et l'adoption n'intervient qu'en dernier recours, lorsqu'il y a besoin pour ces enfants-là. Voilà. Hein? Et c'est bien cadré, hein? L'adoption. Voilà.
Et au début, en fait, votre cheminement personnel, c'était dans une optique d'adoption au début.
Au début, notre cheminement, c'était... on s'est dit qu'on avait eu la chance d'avoir deux enfants et que, voilà, et que ça avait été tout très bien. Tant la grossesse que vouloir les faire, on a fait ça comme on voulait. Oui. Et puis on s'est dit, alors qu'il y a des enfants qui attendent, qui n'ont pas cette chance-là, et nous, on voulait une famille, alors on s'est dit, on s'est fait plaisir en faisant des enfants, oui. Accueillons d'autres enfants. Voilà.
Écoutez, vous avez vraiment une...
Non, mais c'est...
Une proposition qui est très, très positif, comme on dit. C'est vrai que, et puis même vous qui êtes, vous êtes bien sage-femme, vous savez ce que c'est, hein, que un enfant qui est attendu, qui est conçu, qui est un enfant qui naît, et alors que aussi il y a des couples qui galèrent à essayer d'avoir une technique médicale, puisque maintenant nos techniques scientifiques ont beaucoup progressé pour essayer d'avoir une procréation médicalement assistée, alors que ce serait bien mieux plutôt de parrainer ou voire d'adopter, plutôt que de soi-même essayer d'en faire, alors que ça ne marque que une fois sur cinq.
Oui, alors ce qu'il y a, c'est quand même que, alors, nous, bien sûr, l'on est enfin, ce sont les enfants. On cherche des familles pour des enfants, mais des enfants qui sont déjà dans des crèches, qui sont déjà dans des orphelinats, dans des structures. Mmh. On cherche des familles pour ces enfants-là, et non pas l'inverse. On ne cherche pas des enfants pour des familles en mal d'enfants, on va dire. Hein, mettons les choses bien claires. Et il se trouve que dans les structures, dans les maisons d'enfants, les enfants ne correspondent pas toujours aux souhaits des candidats à l'adoption. Souvent, ils veulent des enfants très, très jeunes. Or, dans un pays comme Haïti, par exemple, les mères, ce sont souvent des femmes seules, laissent leurs enfants quand elles sont contraintes par la pauvreté. Ce n'est pas parce qu'elles veulent s'en débarrasser, c'est parce qu'elles veulent leur donner un avenir meilleur. Elles ne peuvent pas les soigner, elles ne peuvent pas les nourrir. Les enfants arrivent dans les maisons d'enfance, qu'on appelle souvent des crèches, dans des états de malnutrition épouvantables, parce qu'elles les amènent à la crèche au tout dernier moment, quand elles ne peuvent plus, quand elles voient que leur enfant... Donc, ça n'est pas simple, mais ce sont les enfants, nous. Et donc, parfois, ce sont des grands-enfants, donc, dans les crèches. Enfin, des grands qui ont 6 ans, 7 ans, et ça ne correspond pas toujours aux couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants, voilà.
Enfin, mais quand même, un couple qui souhaite accueillir des enfants... C'est pas le modèle. On va parler dans une grande surface au rayon valeur sûre, chercher son enfant avec la couleur des yeux, la couleur des cheveux. C'est même quel que soit son âge. On comprend pas pourquoi les parents sont du moment qu'ils accueillent un enfant qui a besoin d'être accueilli ou simplement parrainé.
Oui, enfin c'est pas simple d'accueillir un enfant qui a déjà un vécu. Un vécu fait de ruptures, un vécu douloureux, un vécu... ce sont des enfants qui ont été quand même traumatisés, blessés. Quand on parle des difficultés des enfants qui sont adoptés, ce n'est pas l'adoption en elle-même. C'est l'abandon qu'ont vécu ces enfants. C'est terrible pour un enfant. Ils ont après une mésestime d'eux. Ma fille, enfin Marie, qui est arrivée donc à 9 ans, Marie m'a dit « Maman, peut-être que j'étais pas jolie, peut-être que j'étais méchante, c'est pour ça qu'on m'a laissée », même si elle avait l'explication du pourquoi, elle l'a toujours eu. Mais pourquoi moi ? Un enfant, il a confiance dans ses parents de naissance, et ses parents de naissance font le proposer à d'autres. Même si on explique aux enfants que pour un avenir meilleur, mais ça, c'est du discours. Dans leur tête, ils sont abîmés, blessés. C'est pas simple que d'adopter des enfants. Voilà, c'est pour ça.
Même quand ce sont nos enfants qui naissent spontanément, ça va pas toujours tout seul.
Exactement, exactement. Oui, bien sûr.
Il faut qu'on se le dise les uns aux autres et qu'il suffit d'un peu de causer avec nos voisins pour voir que... La vie, c'est comme ça, et que il faut bien savoir la réalité pour faire un bon choix. Il faut avoir la vérité en face, et comme ça on avance bien positivement. Alors, avant de prendre le dernier volet de notre entretien, on va demander à nouveau à Jean-Marie une petite pause musicale. Nous allons terminer notre entretien au sujet d'une association qui aide les enfants en difficulté de par le monde, avec Bernadette Bataille. Et ton association alors a quelques besoins actuellement, si tu veux nous en dire deux mots.
Alors, notre association est surtout dans son travail une association de solidarité internationale. Elle intervient en Haïti, en Éthiopie, à Madagascar. Nous avons en Haïti et en Éthiopie 281 parrainages d'enfants, 30 euros tous les mois, qui sont envoyés par trimestre avec un reçu fiscal pour déduction des impôts. Voilà. Il y en a 214 en Haïti et 67 en Éthiopie. En Haïti, ce sont les religieuses. Alors, il y a l'association Un responsable de parrainage Haïti, Un responsable de parrainage Éthiopie. En Haïti, ce sont les religieuses qui sont en lien direct et qui suivent les enfants et qui envoient les bulletins scolaires et les nouvelles des enfants. Et si au bout de 6 mois, il n'y a pas de nouvelles, il y a des relances. Et au bout d'un certain temps, plus de nouvelles, on arrête le parrainage. Donc, ce sont les religieuses. Même si la situation en Haïti, en ce moment, actuellement, est difficile avec tout ce qui se passe en Haïti. En Éthiopie, les parrainages sont gérés par les kébélés, par les mairies. Hein, c'est très étatisé hein, en Éthiopie. Et là, c'est pareil, les nouvelles des enfants arrivent très régulièrement. Donc tout ça, ça fonctionne vraiment bien. Et en Haïti, la plupart des familles, des enfants, enfin, par l'intermédiaire de leurs parents, on a exigé depuis 2 ans qu'ils aient un compte bancaire pour éviter que les religieuses promènent l'argent sur elles pour donner aux familles. Donc il nous reste sur les 281 parrainages, on a fait le bilan, il doit rester 6 ou 7 comptes bancaires encore qui ne sont pas ouverts. Voilà. Hein? Donc ça, c'est une sûreté. Tout ça, ça a été par décision parce qu'on a eu un correspondant qui s'est fait racketter, voilà, puis l'argent avait été pris. Voilà. Hein? Donc ça, ce sont les parrainages. On a une aide sur place en Éthiopie et en Éthiopie, on soutient une coopérative autour d'un silo de céréales à Debrebiran. Et on a financé la construction du silo et on aide à la réparation des machines et à l'entretien. À Madagascar, on a une ferme qui s'appelle Rayon d'Espoir, qui a Tsiro Anoma Mandi, c'est une ferme, on travaille avec d'autres associations là, il y a eu des constructions de petites maisons pour éviter l'exode rural, voilà, donc dans la campagne, construction de petites maisons, un terrain où ils peuvent cultiver, du coup ça faisait des familles. On a construit une école, les enfants sont scolarisés, et dans le projet 2021-22, c'est de faire un terrain de sport pour les enfants, pour qu'il y ait une activité. Donc tout ça pour éviter l'exode rural. Il y a aussi une école que l'on soutient du côté d'Amparaki, et on devrait construire 2 classes supplémentaires là. Voilà pour Madagascar, et c'est notre responsable Madagascar qui s'occupe de ça. On n'est pas tout seul à Madagascar, il y a d'autres associations qui sont avec nous pour ces projets. L'aide sur place en Haïti, alors on aide les écoles. On intervient dans une école qui s'appelle l'école du Bon Berger et on soutient la cantine scolaire. Là, dernièrement, l'école n'avait, au vu des événements qui se passent en Haïti, l'école n'a pas ouverte au mois de septembre. Elle a ouverte fin octobre, début novembre. Les enfants sont rentrés à l'école. C'est une école dans un quartier où les enfants sont très, très pauvres. Et donc on assure la cantine trois jours par semaine, 3 jours sur les 5. Ça c'est à Port-au-Prince. On a une religieuse, Sœur Lucie, qui a fait une maison d'enfants, qui a recueilli des enfants, qui est sortie de sa congrégation, mais ça c'est assez souvent donc en Haïti, les religieuses elles sortent de leur congrégation comme elles veulent, et qui a recueilli des enfants, et qui les a scolarisés, et qui s'occupe de ces enfants. Et son école s'appelle l'école Aurore du Savoir, voilà, de Sœur Lucie, et c'est à Port-au-Prince. Bon, alors comment on travaille avec les religieuses de Saint-François d'Assise, ce sont elles qui nous assurent la distribution des parrainages. Hein. Il y a une sœur Marise, qui nous a demandé de participer à l'achat de sa voiture d'occasion, parce qu'elle sillonne un peu partout. Ça c'est compliqué. Les sœurs du côté des Cailles, c'est-à-dire du côté ouest de Lille. Il y a Sœur Bernani qui s'occupe des parrainages, qui nous demande de l'achat de matériel pharmaceutique, entre autres pour les diabétiques. Hein. Et on en a fait partir, tant pis, par colis postal, puisque actuellement on ne peut plus se rendre donc en Haïti. Et puis, cette sœur est en charge du dispensaire de la maison de retraite Sainte-Anne. Voilà. Donc, on travaille très bien avec les sœurs. Alors, et puis, il y a l'aide aux crèches, aux maisons d'enfants, où sont recueillis les enfants. Moi, je suis responsable de l'adoption en Haïti, mais en même temps, on ne peut pas faire ça. Quand je vais en Haïti, je m'occupe également, je suis les projets d'aide sur place, hein. Donc, et dans la crèche, alors il y a deux crèches que l'on soutient particulièrement, dont l'une était à Port-au-Prince il y a très peu de temps, puis qui a déménagé à l'extérieur, tellement Port-au-Prince est peu sûr, enfin c'est terrible. Et donc c'est de l'aide alimentaire, si vous voulez, tant qu'il y avait de l'adoption. Parce que la France a suspendu l'adoption, ça va faire maintenant 3 ans, suite à la dangerosité du pays, et puis parce qu'il y avait eu l'assassinat d'un couple de Français, justement, dans le cadre de l'adoption. Donc, ça, c'est le ministère des étrangères qui a suspendu. Et les crèches qui accueillaient des enfants, elles arrivaient à tourner parce que les gens qui adoptent paient, versent pour l'entretien de l'enfant. Et avec ça, elles arrivent à nourrir tous les enfants. Et maintenant qu'il n'y a plus d'adoption, par la France, entre autres, il n'y a plus d'argent dans les crèches et c'est terrible. Donc, l'aide alimentaire pour les crèches, et là, on a besoin de donateurs, c'est vrai. Et puis, on aide à la construction de ponts, etc. Voilà. Et d'autres projets encore sur Haïti.
Comment est-ce qu'on peut faire, en terminant cette émission, pour vous aider?
Alors, où les difficultés sont grandes, très grandes actuellement, ce sont dans les maisons d'enfants, dans les crèches que l'on soutient. Et puis, il y a aussi une autre structure qui est à l'association, là, particulièrement, ce sont les dons. Ce sont les dons, il y a 60% déductibles des impôts, ou les dons ponctuels, ou éventuellement des parrainages ou d'enfants, ou parrainages de structures aussi. On peut parrainer une école, on peut parrainer une crèche, on peut parrainer une maison d'enfants, et puis les dons, voilà. On tourne avec ça. Hein. Il faut reconnaître qu'avec la Covid, les manifestations festives que l'on faisait, qui rapportaient, on n'en fait plus, donc c'est compliqué.
Et quelques coordonnées éventuellement pour quelques auditeurs qui souhaiteraient être plus en relation avec vous?
Oui, alors je ne les ai pas là directement.
Oui.
Parce que je ne pensais pas. Alors, s'il y a des dons, effectivement, ils peuvent me les envoyer à moi au nom d'Accueil et Partage. Oui. Sinon, Henri, je peux vous transmettre le compte bancaire de l'association.
Bernadette Bataille à Crépinville, par Châteaudun, ça arrive. Hein.
Oui.
Voilà, merci beaucoup Bernadette d'être venue témoigner de tout cela.
Ben, merci à vous.